votre mobilité professionnelle.
RMC, les 10h. Il est 10h, toute l'actualité. Alfred Orange, bonjour.
Bonjour Alain, bonjour à tous. Au moins 8 morts et 100 blessés, dernier bilan des frappes iraniennes qui ont touché cette nuit Israël. Depuis vendredi et le début des frappes, 24 morts ont été dénombrés. Plusieurs villes de l'État hébreu ont été touchées, notamment Tel Aviv et Haïfa. Joshua Zarka, l'ambassadeur d'Israël en France, était ce matin sur RMC. Il dénonce le mode opératoire iranien.
Ce que les Iraniens ont ciblé, c'est les quartiers résidentiels. C'est là où il y a des gens, des civils qui habitent. Et c'est vraiment la caractéristique du régime iranien. Tuer le plus de civils possible, ne pas, par exemple, cibler des institutions, des infrastructures militaires. Là est vraiment la grande différence entre ce que nous faisons. Nous essayons vraiment de cibler seulement des infrastructures militaires, seulement des infrastructures qui permettraient à notre destruction. Et par contre, les Iraniens font exactement l'inverse.
En France, vous assurez va vous coûter plus cher cette année. Le prix des assurances s'envole. D'après une étude d'Assureland que RMC vous révèle ce matin, il faut compter près de 13% de plus pour assurer votre habitation, 6,8% de plus pour assurer votre voiture, en cause notamment la hausse du prix des pièces et l'augmentation des catastrophes naturelles sur notre territoire qui font grimper le prix des assureurs. Et puis notre avenir dépend-il de la technique ou la vérité est-elle toujours convaincante? Voici les sujets du bac de philosophie sur lesquels planchent plus de 500 000 élèves depuis 8 heures ce matin. Ils ont jusqu'à midi pour tenter d'y répondre. Les épreuves du bac doivent durer toute la semaine. En attendant, il est 10h01 et les GG continuent sur RMC.
RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
De la discussion et du débat tous les jours avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, la radio et la télé. Et si vous avez raté la première heure des GG, elle est d'ores et déjà disponible en podcast. Et les podcasts, c'est la session de rattrapage. C'est disponible sur l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. Aujourd'hui, nos trois GG, l'avocat Charles Consigny, le prof de philosophie Jean-Loup Bonamy et la chanteuse lyrique et prof d'aïkido Éléonore Lemaire. La deuxième heure des grandes gueules, Nicolas Sarkozy qui perd sa Légion d'honneur, justifiée ou exagérée. Une vidéo virale depuis un mois maintenant sur TikTok, elle a dépassé le million de vues. Celle d'un gamin de 10 ans qui fait le guetteur sur un point de deal. C'est lui qui prévient quand la police arrive. Il a 10 ans, ça se passe à Rennes. Donc vous viendrez en parler avec nous au 32-16. Mais on va commencer d'abord par le bac et l'épreuve de philosophie.
Vous passiez un bac G, un bac à bon marché, dans un lycée poubelle, ouverture habituelle, des horizons bouchés.
C'était hyper gay.
Votre question était: faut-il désespérer?
Ah, le célèbre bac G de Michel
Sardou. Devenu le bac STT, puis aujourd'hui STMG.
Tu sais, d'accord, qu'à l'époque, Lionel Jospin s'était officiellement insurgé, ouais, de la chanson de Michel Sardou, parce qu'il ne fallait pas dénigrer le bac G qui était quand même, qui n'avait pas bonne réputation. C'était un peu le bac comme pas poubelle entre guillemets, mais enfin c'était, on mettait pas les bons élèves dans ce bac, et puis surtout il y a un problème de débouché.
Enfin, aujourd'hui c'est le bac STMG qui pose les mêmes problèmes,
hein. Exactement. Alors la philo, c'est important, hein, Jean-Loup?
Ah bah oui, mais je ne suis pas tout à fait neutre dans ce débat, Olivier.
Mais explique-nous pourquoi. Parce que bac philo, on se dit en 2025, est-ce qu'il faut convoquer encore près de 600 000 élèves pour plancher sur la philo, sachant que c'est l'une des rares épreuves qui reste du bac,
oui,
parce que le reste
du fait
c'est,
de son
c'est
prestige,
du contrôle
sachant
continu,
qu'ils ne savent plus ni lire ni écrire.
Voilà. Alors, sachant qu'ils sachent plus, ça c'est ce que dit Charles.
Tu vois pas beaucoup de jeunes de 17 Jean-Loup. Ans, toi. Il y en a beaucoup qui savent lire et écrire.
Alors, non, et c'est très compliqué de répondre. D'autant plus que moi, à titre personnel, je suis, pour des raisons qu'on ne développera pas aujourd'hui, très critique de certains aspects du bac philo, mais on ne reviendra pas là-dessus. Bah, je suis content des sujets qui sont tombés. Soulagé, parce que ça correspond à des choses qu'on a bien vues pendant l'année.
On va les redonner, voilà, les sujets peut-être.
Donc, il y avait un sujet sur la vérité. La vérité est-elle toujours convaincante?
Alors,
et l'avenir est-elle technique ou...
et un autre sur la technique. Notre avenir dépend-il de la technique ?
Et en bac techno, sommes-nous libres en toutes circonstances ? Et le sujet 2, avons-nous besoin d'art ?
Et en sachant que j'ai déconseillé aux élèves du bac techno de prendre le sujet sur l'art, parce que c'est des sujets qui sont vraiment pièges et qui nécessitent une grosse culture artistique. Donc moi, je méfie beaucoup des sujets sur l'art.
En bac techno, ils n'ont pas de grosse culture artistique ?
Non, mais personne n'en a. Je veux dire, même les enseignants, il faudrait passer toute ton année au musée pour être en mesure de traiter un sujet correctement sur l'art.
Ça dépend de l'art auquel tu penses.
T'as appris quel sujet, toi ?
Moi, j'aurais pris le sujet sur la technique.
Ouais,
notre avenir dépend-il de la technique.
Notre avenir dépend-il de la technique. On a fait pas mal de choses sur la technique. Je pense que là, mes élèves vont pas mal prendre le sujet sur la vérité parce qu'on a fait à fond la vérité.
La vérité est-elle toujours convaincante?
Donc, je pense que beaucoup.
Et tu m'avais dit que tu leur avais donné le sujet en avance.
Voilà, exactement. J'avais fait une petite opération
avec
des amis iraniens. Avec des amis iraniens, on s'était introduits secrètement dans les locaux du rectorat et donc j'avais communiqué les sujets. Et tout ça étant, bien sûr, une plaisanterie, je le précise.
C'est pas ce que tu m'as dit hors antenne.
Ah, tout à fait, tout à fait. Et comme je serai de toute façon en prison au secret quand tu seras président.
Continue ton explication.
Ce qui est bien, c'est que pour les élèves, c'est l'occasion d'un rite de passage. C'est ça qui est bien, c'est que c'est l'occasion, dans une société où les jeunes ont de moins en moins de rites de passage, où il n'y a plus de service militaire, etc., etc., ça leur fait encore un petit dernier succès d'année de rite de passage.
Ces épreuves écrites.
Voilà, donc ils ont grand besoin et qui leur manque. Après, le problème qui a été très bien souligné par Charles, c'est qu'on leur demande des choses assez compliquées qu'on leur demandait déjà au bac philo il y a 50 ou 60 ans, sauf qu'entre-temps, le niveau global s'est effondré et les élèves, globalement, n'ont plus la maîtrise de l'écrit, notamment la grammaire, non plus la culture générale, historique, scientifique, nécessaire pour faire face à ces épreuves qui présupposent normalement une maîtrise de la langue, une bonne culture générale. C'est pour ça qu'on ne fait de la philo que en terminale, que ça vient couronner l'édifice en dernière année, quand t'es censé avoir fait d'autres choses avant et être un peu mature, et t'es censé avoir appris un certain nombre de choses avant. Or, les élèves, et ce n'est pas de leur faute, je leur dis, vous ne savez rien, mais c'est pas de votre faute, vous êtes des victimes. Vous êtes des victimes du système, vous êtes des victimes de 40 ans de faillite éducative, et donc nos élèves ne savent plus rien. Alors c'est pas de leur faute, on essaye d'y remédier, mais voilà, nos élèves ne savent plus rien, et dans une copie, tu peux compter une à deux fautes par ligne en moyenne, sur une copie standard.
Il y a deux fautes d'orthographe, d'accord.
Et surtout de grammaire qui change le sens de conjugaison. Les élèves ne font plus du tout la différence entre « on » « on »,« on va se baigner dans la Seine » ou « on » « ont » « à » « RMC ». Ils ont une très bonne émission avec les GG. Ils font plus la différence entre « on » « on » ou « on » « ont » en terminale générale. Ils font plus la différence entre « son » « son », le pronom possessif, il va promener son chien, ou « son » « sont », le verbe. Ça se mélange complètement. Des fois, il y a des « t », des fois, il n'y en a pas. Et E accent ou E ER, c'est mort pour 9 élèves sur 10 en bac général.
Ah, effectivement. Éléonore.
Alors, j'ai d'abord une pensée pour mes élèves de la section ado d'Aïkido qui ont passé le bac philo ce matin et certains après avoir passé leur premier dan hier, donc gros stress. Donc je suis voilà, j'espère que vous avez cartonné les gars.
Il y a encore du stress même si
en fait, il y a du stress malgré les 90% de réussite.
Il y a du stress et alors, je comprenais rien parce que moi-même, donc, mon fils, il est en quatrième. Et je vois arriver le lycée avec Parcoursup et compagnie. Et donc, à chaque fois, je leur demande de me réexpliquer tout en tant que parent stressé, puisqu'on nous stresse tout le temps. Ils m'ont plus ou moins expliqué. En gros, c'est hyper, hyper complexe. Si tu es très bon élève, ça va à peu près. Tu enlèves le stress. Tu sais que tu as ton bac avant. Tu sais que tu as ton école avant. Et puis, du coup, l'épreuve écrite, finalement, c'est juste. Voilà, presque un plaisir pour les bons élèves. Et pour tous ceux qui sont un tout petit peu en dessous des bons élèves, on ne sait même pas où on va l'année prochaine. Le contrôle continu, on doit l'augmenter un peu par le bac. Enfin, c'est un peu quand même... les maîtres, je trouve qu'on met nos jeunes dans une pression pas possible. Si tu rajoutes en effet le fait qu'à l'écrit, ben, franchement, à chaque fois, je ne comprends pas. Moi, j'adore la grammaire et quand je leur parle... je comprends que c'est très très loin. Et l'expression écrite, je me bats avec mon fils de 13 ans qui pourtant... Alors là, pour le coup, c'est là où je te rejoins pas. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont une très grande culture générale et pourtant ils ont une incapacité à l'écrire, à le partager. Par exemple, mon fils, il a plein de copains, ils lisent d'énormes choses, des gros pavés, on va dans des conférences scientifiques, tout ça, parce qu'il y a des parents qui poussent les enfants ailleurs. C'est pas à l'école qu'ils apprennent ça, hein, c'est parce que les parents derrière, on va les emmener au musée, tout ça.
C'est bien.
Et le truc, c'est que quand on leur demande soit de synthétiser, donc voilà, je sais pas, on était à la conférence de Galfard, un super physicien qui fait des conférences, voilà, est-ce que tu peux me résumer en 2-3 mots voilà les grandes orientations, enfin voilà,
il n'y arrive pas,
et en fait il le fait, mais à force de circonvolution, exemple, c'est beaucoup la, en fait ils font des exemples pour t'expliquer quelque chose au lieu de t'expliquer par une phrase synthétique, quoi. Et ça, c'est eux-mêmes le ressentent comme un handicap. C'est-à-dire, je parlais avec mes ados, comme je les appelle là, et ils me disaient, c'est compliqué de parce que ils ont plein de choses à dire. Mais quand ils le mettent à l'écrit, tout à coup, ils se sentent freinés par l'écrit, quoi.
Et on a Axel qui est avec toi, alors que nous, on ne faisait que ça, écrire, au point d'en avoir la cale.
La baisse
pendant des années, on a eu la cale au majeur. Ouais. On l'a toujours, d'ailleurs, bien sûr. Ouais. Axel, bonjour.
Bonjour, grande gueule.
Axel de la Somme, étudiant en sciences politiques, 20 ans. Le bac, ça reste un souvenir marquant pour vous ou pas, alors?
Ah, moi je me souviens assez bien du bac, je me souviens, mais je pense que tout le monde a un peu ce souvenir devant le lycée, sur les bancs juste avant d'aller en épreuve. C'est un bon souvenir pour moi et je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder, ouais. Parce que vous êtes avec des amis, vous parlez de votre bac. Déjà parce que c'est un souvenir qui a marqué des générations et des générations. Et aussi je pense que le bac, il est particulièrement utile parce que tout au long de l'année, aujourd'hui, au lycée, vous savez, vous rendez des travaux maison, des écrits que vous faites à la maison. Le problème, c'est que de plus en plus, ces écrits-là peuvent être faits avec l'intelligence artificielle.
ChatGPT.
Par exemple, avec l'aide des parents aussi. Et c'est vrai que ça me semble important d'avoir une fois dans la scolarité, une fois où on est sûr que l'élève, il est seul avec sa connaissance, avec son stylo, qui peut pas être aidé, parce que c'est... On a besoin aussi de réfléchir par nous-mêmes. On est aidé aujourd'hui tout le temps par les ordinateurs, par l'intelligence artificielle. Mmh. Moi, je pense qu'on a besoin de moments où on est carrément à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on a le stylo, on n'a rien à côté, on réfléchit, on s'appuie sur nos connaissances. Et je veux dire, les grandes gueules, et je pense que tout le monde sera d'accord avec ça autour de la salle, on a déjà dévalorisé le brevet à un point qui me semble extrêmement important, ce qui fait qu'aujourd'hui... Bah, ceux qui passent le brevet, ils disent « bon, bah, je vais réviser la veille et ce sera bon ». Moi, je pense qu'on a besoin de garder un bac qui est fort pour passer un rythme dans la génération.
C'est plus le cas, parce qu'aujourd'hui, si on a bien travaillé en première et en terminale, on a déjà son bac avant même que l'épreuve de philo commence.
C'est à 90% de réussite. École, hein,
et après, il y a peut-être la mention qui se joue encore sur les épreuves écrites. Mais
ils ont tous la mention, moi, j'ai l'impression.
Ma fille passe le bac là, ce matin et je l'embrasse, je pense à elle. Mais elle m'expliquait que la plupart de ses camarades avaient déjà le bac, en fait, par le jeu des contrôles continus, des
coefficients.
Si au bac français, tu as eu des bonnes notes. Donc, il y a quand même un enjeu. Le stress est là. J'ai vu ma fille était.
Le stress
était,
est là. C'est le rythme de
tout ce week-end, était sous pression, etc. Parce qu'il y a espèce. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'enjeu du bac n'est plus le même.
Mais Axel, je vous rejoins sur le côté rite, quoi. Voilà, rituel de passage, ça, s'il y a quelque chose, c'est vrai que c'est ce qu'ils m'ont dit, les ados, c'est le côté, la fin d'un cycle. Après, c'est vrai que j'aurais préféré qu'on les prépare à cette fin de cycle, parce que là, par exemple, j'ai eu des crises d'angoisse d'une de mes élèves qui se sent complètement démunie face aux écoles qu'elle vise derrière. C'est-à-dire, tout à coup, elle a l'impression qu'un vide s'ouvre et qu'elle n'a pas été préparée à ça.
D'accord, mais si c'est un rituel...
Vous parlez du stress, justement, ça me semble assez intéressant parce que je pense que c'est aussi important de nous préparer. Enfin, moi, quand j'ai eu le bac, ça a été mon premier coup de stress, vraiment. Parce qu'après, quand les étudiants vont aller, pas comme nous, on l'est à 20 ans, dans l'enseignement supérieur, ils vont avoir des oraux, ils vont avoir des épreuves, des moments stressants. Et donc, c'est bien aussi de travailler ça, d'avoir dès 18 ans, des moments où on a un petit peu de stress, apprendre à gérer ses émotions. C'est des moments importants, mais dans la vie pro, etc., on a aussi des moments de stress.
C'est sur la vie,
donc c'est bien d'apprendre tôt.
Oui, mais vous voyez, pendant qu'on discutait, j'étais sur ChatGPT. Donc j'ai soumis l'un des sujets, notre avenir dépend-il de la technique ? Et j'ai le devoir.
Le ChatGPT est jugé parti. Je vais te dire que oui, évidemment.
Non, parce qu'il y a
thèse, antithèse, synthèse.
Donc, oui, notre avenir dépend de la technique. Petit 1, une dépendance croissante. Petit 2, un levier pour répondre aux grands défis. Petit 3, une accélération historique. Et puis le grand 2, c'est l'antithèse. Mais l'avenir ne dépend pas que de la technique. 1, la technique n'est qu'un outil. 2, des risques de dépendance ou de dérive. 3, l'importance de la pensée, de la volonté humaine, de la société. Et ensuite, il y a la conclusion nuancée.
Alors,
et à chaque fois, c'est argumenté. Donc en fait, j'ai mon sujet philo. J'ai dit, non mais Jean-Loup, comment va-t-on faire ?
Il n'y a plus besoin de réfléchir.
En 10 secondes, j'ai mon sujet philo qui a été rédigé.
Bon, on était fatigués de réfléchir en même temps.
Jean-Loup ?
Non mais c'est comme...
Toi, tu as des copies chez ChatGPT, tu les reconnais ?
Si tu donnes des devoirs à la maison, mais en temps surveillé, ça ne se pose pas. Non, mais c'est exactement comme si tu... comme si tu achetais un... Tu vois, au lieu d'aller faire de la musculation, tu achètes un t-shirt qui te truquait, qui te moule vraiment. Ok, bah, tu as l'air plus musclé, mais ça ne t'a rien apporté. Bah c'est pareil, là le but, ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'avoir la réponse des élèves, ou ce n'est même pas de savoir si notre avenir dépend de la technique, ce dont d'une certaine façon on se fout en fait. Ce qui compte, c'est ce que ça va apporter aux élèves, eux, en termes de réflexion, de structuration de leur esprit, même de structuration cognitive, neurologique de leur esprit, en termes de culture générale, en termes de développement des capacités de synthèse, de réflexion, d'esprit critique, c'est ce que ça apporte. Mmh. Comme si tu fais de la muscu juste pour être beau gosse, oui, t'as qu'à acheter un t-shirt hyper moulant. Si par contre tu fais de la muscu pour ce que ça t'apporte, ça ne t'épargnera pas les heures passées sur le banc de développé couché. Je me suis laissé dire d'ailleurs que Monsieur Consigny était un pratiquant de musculation. Bah c'est pareil
qu'est-ce
pour les exercices intellectuels.
Si on le maintient. Alors, il a été réduit à portion congrue, mais est-ce qu'il faut maintenir quand même ses épreuves ou passer tout en contrôle continu?
Charles a raté son BEPC 3 fois.
Pas du tout, ça c'est faux. J'ai passé le bac en candidat libre en l'occurrence. Je l'ai eu sur le fil après avoir fait tout à fait autre chose en terminale. Moi, je pense que c'est important de garder un niveau d'exigence intellectuel, culturel en France. C'est ce qui quand même.
C'est notre spécificité.
Voilà, c'est ce qui fait pas de garder mais de reconquérir
puisqu'on a perdu là.
Exactement, de reconquérir. Moi, je pense quand même que
de retrouver.
Et je pense que les élèves ont trop de cours quand même dans une journée et qu'on serait d'ailleurs je pense tout aussi excellent si ce n'est plus
meilleur.
En ayant moins de cours, en supprimant des matières inutiles, en mettant plus de sport
et
d'activités X et Y l'après-midi. Enfin bon, je pense qu'on doit réorganiser ça. Mais oui, ça me paraît important de garder ça, même si je pense qu'on doit bien davantage faire rentrer les métiers dans les collèges et les lycées pour que les jeunes et conscience de l'étendue des métiers qui s'offrent à eux.
Guetteur sur un point de ville, par exemple.
En sociologie à Tolbiac.
J'ai fait mon bac pro guetteur.
Merci Axel d'avoir été avec nous. À bientôt Axel, merci d'avoir été dans les GG.
L'école primaire.
Merci de votre intervention. Le bac a-t-il encore un sens? Oui ou non. On va regarder votre humeur. Non, 68%. Dans un instant, la valeur n'attend pas le nombre des années. À Rennes, une vidéo est devenue virale. Plusieurs millions de vues depuis un mois. On y voit un guetteur. Quel âge a le guetteur? Du point de deal, 10 ans. A tout de suite.
RMC, 9h, midi. Les Grandes Gueules.
Les Grandes Gueules sur RMC avec Toyota et sa gamme de véhicules utilitaires électriques ProAce. ProAce pour les pros.
C'est Vincent Moscato sur RMC. Je me permets de vous interrompre parce que vous êtes en avance pour le Super Moscato Show. Là, jusqu'à midi, c'est les Grandes Gueules. Le Super Moscato Show, c'est de 15h à 18h. Voilà. A tout à l'heure, 15h-18h sur RMC.
Allô ? Faire une pub 1-2-3 pare-brise ? Bah j'ai écrit un super avis Google, c'est déjà pas mal, non ? Oui, j'ai eu 200 euros en carte cadeau pour mon changement de pare-brise, et je suis pas comédien. Il y a 52 000 avis et 4,9 étoiles sur Google. Demandez à quelqu'un d'autre.
1-2-3 pare-brise, on n'a pas les meilleurs comédiens, mais on a les meilleures notes Google dans la catégorie vitrage auto. Conditions sur 1-2-3-pare-brise.fr. 1-2-3
pare-brise. Alors monsieur, bonne nouvelle, vous êtes bien éligible à l'aide pour rénover votre logement. Il me faut juste votre numéro fiscal pour l'activer.
Là, maintenant ?
Oui, non mais c'est normal, hein, c'est une formalité.
Mais
le problème c'est que si on l'active pas aujourd'hui, vous pourrez plus bénéficier de cette aide.
Bon, écoutez, j'aime pas qu'on me presse, j'ai besoin d'un autre avis.
Un numéro fiscal, c'est confidentiel et ce n'est pas pour les escrocs. Avant de dire oui, demandez un autre avis. Contactez votre conseiller France Rénov sur france-rénov.gouv.fr, le service public de la rénovation de l'habitat.
Cofidis présente projet numéro 7, le projet qui reste sur le carreau. Oh non, vous en avez assez des rêves qui se brisent. Avec Cofidis, c'est simple pour financer vos projets. Jusqu'au 30 juin, Cofidis propose un prêt personnel à taux exceptionnel. Et c'est pendant 2 semaines seulement sur cofidis.fr. Cofidis. Le crédit qui fait la différence. Délai légal de rétractation.
Pour vos pauses musicales, téléchargez l'appli RMC.
RMC vous offre aussi une radio digitale 100% musicale.
C'est RMC Gold.
RMC, bien plus qu'une radio. Noroto.
6 heures de route sans clim, l'enfer.
Heureusement que j'ai pensé aux boissons fraîches.
Bah vu la chaleur, elles vont pas tenir longtemps.
Mais si, avec ma glacière électrique 25 litres Noroto à 59,99€.
59,99€? J'y crois pas.
Si, si, la glacière électrique 25 litres Noroto est à 59,99€ avec branchement électrique en voiture ou à la maison. Avec des prix comme ça, pas étonnant qu'on soit la marque préférée des Français. Étude Opinionway mars 2024. Conditions en centre et sur noroto.fr.
Carrefour. Chez Carrefour, pour 2 boîtes de glace nuit achetées, la 3e est offerte. Et c'est valable sur toutes les boîtes de glace nuit. Alors rendez-vous dès demain et jusqu'au 23 juin chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Au rayon surgelé, selon disponibilité en magasin, panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Un impact à réparer, un pare-brise à remplacer? Avec Carglass, c'est simple, vous choisissez l'heure et le lieu qui vous conviennent le mieux. Et oui, vous pouvez choisir de venir en centre, mais on vient aussi chez vous. Et même sur votre lieu de travail, c'est où vous voulez. Chez Carglass, la solution la plus proche de chez vous, c'est aussi chez vous. Et jusqu'au 20 juin, pour toute intervention pare-brise, Carglass vous offre un aspirateur de voiture développé par Noroto. Alors, prenez vite rendez-vous sur carglass.fr ou appelez-nous gratuitement au 3044.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr.
Claire, ce qu'elle aime dans la vie, c'est le verre et ce qui est offert. En fait, ce qu'elle aime dans la vie, c'est nous, Engie. Et oui, Claire, en ce moment et jusqu'au 12 septembre 2025, Engie vous offre 100€ pour la souscription d'un nouveau contrat d'électricité ELEC référence 3 ans. Et bien sûr, c'est une électricité verte, certifiée à 100% par des garanties d'origine renouvelable. C'est pas super, ça, Claire? Appelez le 3443. Service et appel gratuit. Voir les offres électricité éligibles et conditions de l'offre sur particulier.engie.fr. J'agis avec Engie. L'énergie et notre avenir. Économisons-la.
Vous écoutez
RMC. Du 21 mai au 11 juillet, RMC part sur les routes avec la tournée des meilleurs artisans de France. 14 étapes pour donner la parole à celles et ceux qui se lèvent tôt. Leur quotidien, leurs galères, leurs solutions, c'est dans Charles Matin, chaque mercredi et vendredi à 5h40 sur RMC.
La tournée des meilleurs artisans de France sur RMC avec la gamme de véhicules utilitaires Toyota Pro Ace.
Attention, même si l'UBB et le PSG sont champions d'Europe
et que c'est trop cool,
la saison n'est pas finie sur RMC.
Championnat de France de natation, championnat du monde de judo, Euro Espoir et Coupe du monde des clubs de foot, Euro féminin et finale du championnat de France de basket, phase finale du top 14 de rugby, mais aussi les grands prix de Formule 1 et de MotoGP.
Sur RMC, même l'été,
le sport ne s'arrête jamais. RMC,
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules avec vous, bien sûr, tous les jours de 9h à midi. C'est vous qui prenez la parole au 32-16. Et on vous remercie de faire vivre l'émission depuis 20 ans. Charles Consigny est là, Jean-Loup Bonamy et Léonore Lemaire. On va revenir sur cette histoire de guetteur à Rennes. Alors, quand j'ai annoncé le sujet il y a quelques minutes, Jean-Loup Bonamy a dit « Bah oui ». Quoi de neuf?
C'est pas nouveau.
Rien, c'est rien. Pas nouveau. Enfin, quand même.
Quand même.
On a là, maintenant, c'est vrai que ça fait des années qu'on parle de ces adolescents qui sont guetteurs pour les points de deal et qui préviennent en alertant de la présence de la police ou de l'arrivée du représentant d'une autorité quelconque. Mais là, depuis un mois, il y a cette vidéo qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux. Elle a été vue sur TikTok. On est dans un des quartiers, Olivier, un des quartiers connus de Rennes. Et on voit un gosse de 10 ans qui a été surnommé, paraît-il, mini-rapace, simplement prévenir de l'arrivée de la police. 10 ans, guetteur.
Oui, c'est
déjà
un guetteur,
inséré dans la vie professionnelle.
C'est un guetteur du point de deal du square de Copenhague dans le quartier de Brekingi. Il crie, et en criant, il prévient les trafiquants du passage de la police. Mini Rapace, c'est son surnom. Pour lui, ce qui me frappe dans cette vidéo, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il s'adonne à un jeu. Parce que c'est un enfant, en fait. Oui. C'est un enfant de 10 ans et qui joue au jeu des policiers. Enfin, des
policiers
et voleurs. Voilà, policiers voleurs, aux gendarmes et voleurs. Ou chat et la souris, comme on pouvait jouer quand on avait 10 ans. Sauf que là, c'est pas un jeu, c'est bien réel. C'est un point de deal. La police, contrôlée par des enfants de moins de 13 ans qui travaillent en tant que guetteurs, visiblement, c'est un phénomène qui s'étend et pas seulement à Rennes. Il y a une tendance nationale. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je suis terrifiée en tant que mère, parce que 10 ans, c'est CM2, quoi. C'est l'âge où justement on va commencer à laisser les enfants aller seuls à l'école. C'est-à-dire que avant 10 ans, en principe, il est accompagné à l'école maternelle. Et en fait, souvent, alors les enfants, à chaque fois, ils disent « Allez, s'il te plaît, laisse-moi aller tout seul. » Alors, il y en a, en fonction de où est-ce que tu habites par rapport à l'école, si tu n'as pas trop de rue à traverser tout ça. Certaines fois, c'est à 8 ans ou à 9 ans, parce que c'est très près. Puis après, plus on est loin et plus on va dire « Non, attends, un peu plus tard, quand tu es en CM2, voilà, pour anticiper, par exemple, la 6e, ou en tout cas, dans les grandes villes, on va devoir prendre les transports en commun pour aller... au collège. Donc, en fait, tu te dis, ils se font choper au moment où les premières fois où ils vont aller à l'école. Ça veut dire qu'il y a des grands baraqués là qui vont venir les voir, qui vont faire les grands frères, qui vont les séduire, en fait. Parce que là, si ça les amuse, évidemment que c'est amusant, parce qu'ils ont tous envie d'être reconnus par les grands frères, du coin. Donc, en fait, en tant qu'enfant, c'est très attrayant de faire des bêtises. Parce que eux, ils voient le côté, enfin, je sais pas, moi, mon fils de 8 ans qui est hyper au taquet, dès qu'il peut faire une bêtise, il va le faire. Et donc, on est là pour encadrer.
Il ne se rend pas compte de ce qu'il fait, sans doute.
Je pense que, franchement...
Exactement, des conséquences de ses actes.
Je pense que les adultes qui sont derrière, qui attirent ces enfants-là, je pense qu'ils ne sont pas en train de... Ben voilà, il y a un côté très séduisant. Donc, ils doivent avoir un discours assez séduisant envers ces enfants.
Charles,
qu'est-ce qu'on fait de l'apprentissage ?
Qu'est-ce qu'on fait de ce gamin ?
On cherche à chaque fois comment professionnaliser.
10 ans, c'est tôt. Hein.
C'est le troisième. Là, dès l'âge de 10 ans.
CM2.
Voilà. Ouais, écoutez, je pense que c'est un phénomène global de perte de contrôle de certains territoires et d'expansion du narcotrafic qui prend maintenant des proportions comparables à celles qu'on voit en Amérique du Sud.
Quand même.
Et souvenez-vous, oui, bien sûr.
Bah quand même, en Amérique du Sud, c'est à la marge quand même. Quand tu vas au Brésil, problème, tu vois tous les gamins
Tu sais, Léonore, malheureusement, le monde merveilleux des bobos...
Ah, ça y est.
Mais oui,
bah
oui.
Malheureusement,
ce monde merveilleux.
On est tous des bobos à la table.
Mais oui,
donc
mais tu
fait,
sais, ce monde merveilleux.
Non,
pas ce terme.
Arrête.
Ce monde merveilleux.
Mais toujours le bobo.
Où on se baigne dans la Seine entre deux salades de boulgour
et de quinoa.
Et où on trie ses déchets et où prune.
Donc le lien est tout à fait net.
Dostoïevski en russe à l'âge de 7 ans et demi. Parfois, ce monde-là, il se heurte à la réalité. Voilà.
C'est
parfois, il y a autre chose qui s'appelle la réalité.
Mais oui.
Et la réalité, c'est que le narcotrafic, effectivement, en France et en Europe, il est en train de prendre les mêmes proportions qu'en Amérique du Sud. À tel point, j'en ai déjà parlé ici, que nos responsables policiers et judiciaires et politiques sur le sujet ont été dûment briefés par leurs collègues sud-américains qui leur ont expliqué comment, quand et dans quelle proportion ça allait déferler sur le territoire européen. Ce qu'on voit maintenant...
C'est les Brésiliens et les Mexicains eux-mêmes qui nous le disent. Qu'on ressemble de plus en plus à leur pays.
Ces trafics-là, effectivement, moi je suis désolé. Quand je vois ce jeune garçon, je pense effectivement que il y a 10-15 ans, on regardait ce qui se passait au Brésil ou au Mexique en se disant « Ouh là là, c'est horrible, nous on est loin de tout ça, heureusement. » Et non, finalement, on est dedans parce que ce trafic a pris dans ces quartiers-là.
Comme Rennes, hein.
Dans ces quartiers-là.
Rennes, hein.
Et dans certaines... Mais Rennes, Nantes, il y a plein de villes comme ça, Marseille, etc. Il y a plein de villes qui maintenant ont des parties de leur territoire qui échappent au contrôle de la police. On l'a vu même dans certains films. Certains, par exemple, un peu comme toi, ont euphémisé, par exemple, ce qui était représenté par le fameux film Bac Nord.
Oui.
Mais tous les flics qui sont confrontés à ça ont confirmé que c'était quasiment des images documentaires, Bac Nord, par rapport à la réalité. Donc la réalité, elle est là. Moi, je pense qu'on pourrait, mais ce serait peut-être fastidieux, mais si j'étais un homme politique, je proposerais qu'on crée par exemple une infraction autonome consistant à enrôler un mineur dans un trafic.
Ça, c'est sûr.
Et ça, peut-être qu'on pourrait, dans certains cas, retracer le fait que tel majeur est enrôlé tel mineur dans un trafic et rendre cette infraction passible d'une peine lourde. Ça, je le pense. Ensuite, je pense qu'il faut sanctionner les parents. Je suis désolé, mais quand vous avez votre gosse de 10 ans qui est guetteur pour un trafic de stup, vos allocations familiales, il faut vous les sucrer. Votre logement social, il faut vous en expulser, etc. Et des amendes, vous devez en payer. Je pense qu'il y a un moment donné, on est quand même responsable de ces enfants à cet âge-là. Mais le problème, il est plus global, c'est le problème de la perte de contrôle de certains territoires à cause du narcotrafic.
Jean-Loup.
Alors, non, mais je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Charles. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que moi, quand j'étais enfant, il n'y a pas encore si longtemps, j'apprenais que, justement, les villes de l'ouest de la France étaient plus tranquilles, qu'elles avaient moins de problèmes d'insécurité et de délinquance. Et donc, on voit à quel point les choses se sont dégradées de manière rapide et spectaculaire, que Rennes est devenue l'une des villes les plus dangereuses et les plus violentes de France, Nantes aussi. Maintenant, les choses commencent à se dégrader à Angers, me suis-je laissé dire. Donc, on voit une dégradation très rapide et très spectaculaire de la situation, qui ressemble en effet, on le voit avec cet exemple, à de plus en plus à l'Amérique du Sud. Et en effet, je rappelle qu'il n'y a pas longtemps, des juges mexicains, donc qui connaissent quand même la réalité de leur propre pays, sont venus en France en disant « La France est en voie de mexicanisation et ce que nous vivons, vous commencez à le vivre et vous allez le vivre de plus en plus. » Et eux, les Brésiliens, les Colombiens, les Mexicains qui nous le disent cela, ils connaissent quand même un peu leur pays et ils voient bien que nous ne sommes pas sur la bonne pente et que c'est ce qu'ils voient chez nous, ça leur rappelle quand même drôlement et furieusement leur propre pays. Jusqu'au gamin de 10 ans, qui est un phénomène qui se banalise de plus en plus sur tout le territoire. Alors, et alors, qu'est-ce qui a changé à Rennes depuis mon enfance? Est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard quelque chose qui, dans la composition culturelle et anthropologique de la population rennaise, aurait changé ces dernières années? Peut-être que, quand même, ces phénomènes de narcotrafic dans des cités sont liés en grande partie à l'immigration. Et il faut le dire, c'est pas du tout pour stigmatiser, mais il faut faire un diagnostic lucide sur le sujet si on veut apporter des solutions.
Je regardais. Ce ne sont pas des Bretons
Qui jouent
en marinière.
Entre deux chapeaux bretons. Oui, et donc, alors j'avais d'abord regardé la liste.
Et les dames qui dansent, tu sais, en tournant sur
une table
avec des sabots.
C'est
pas elles qui trafiquent de la cocaïne.
Exactement, ce n'est pas elles.
Je pensais que c'était dans les crêperies.
Je serais étonné.
Ah, bah oui. Et donc, bah oui, parce que justement, on serait étonné. Alors d'abord, dans un premier temps, j'ai regardé la liste des gens qui avaient été. Qui est la liste des grands narcotrafiquants qui avaient été appréhendés par la police. Je n'ai vu que des gens issus de l'immigration, ce qui ne veut pas du tout dire que tous les gens issus de l'immigration sont dans le narcotrafic, loin de là. C'est-à-dire que c'est dans ce milieu-là qu'on les trouve, dans cette partie-là de la population qu'on les trouve. Et ensuite, je me suis dit, ah, mais on va peut-être accuser la police de racisme et tout. Donc j'ai regardé la liste de tous les gars qui étaient morts dans des règlements de compte. Là, on ne peut pas accuser la police. J'ai regardé la liste de tous les dealers qui avaient été tués par des autres dealers. Je n'ai trouvé que des gens issus de l'immigration. À Marseille, il y a deux groupes qui s'affrontent.
Est-ce qu'on peut répondre juste sur les enfants?
Non, mais parce juste qu'en fait, à Marseille, il y a deux groupes qui s'affrontent.
Non, mais c'est long, en fait.
Je termine en 5 secondes.
Le bout du tunnel n'est peut-être pas
Il y a deux groupes qui s'affrontent. Il y a un groupe qui s'appelle lui-même la DZ Mafia. DZ, c'est l'indicatif de l'Algérie, El Jazair. Et l'autre groupe s'appelle eux-mêmes les Blacks, parce qu'ils se regroupent et ils se recrutent exclusivement chez les Comoriens. Voilà, c'est tout. J'en ai terminé.
Donc en fait, je suis tout à fait d'accord sur l'expansion du trafic, la problématique que c'est. Moi, je voulais parler des enfants, parce que vous avez l'air de dire qu'il y a partout des enfants de moins de 10 ans qui font ça. C'est quand même très à la marge et c'est là que je me portais en fond par rapport. Oui, d'accord, bon, ok. C'était là que c'était à la marge, parce que pour avoir beaucoup été en Amérique du Sud, là, les enfants sont partout, et ils sont vraiment partout.
Ça va venir.
Est-ce que je peux finir? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Le truc, c'est que la différence, c'est qu'en France, on ne s'en fout pas des enfants. C'est-à-dire qu'en Amérique du Sud, ils s'en foutent des enfants. Les forces spéciales, quand ils vont faire... Bah, allez, je suis désolée, les enfants des favelles, c'est les premières victimes.
Mais là, ce gamin de 10 ans...
On n'est pas encore...
La main de 10 ans le laisse... il est en danger, ce gamin de 10 ans.
C'est ce que j'allais y venir. Et donc, du coup, par rapport à ces enfants qui sont en danger, en effet, la responsabilité des parents primordiale, comment ça se fait qu'ils ne sont pas à l'école? L'école est obligatoire. Donc, ce n'est pas vraiment le même terrain que la lutte pour le trafic de drogue. Je pense que le terrain est plutôt du côté des sanctions des parents défaillants qui laissent les enfants. Et à la fois, le bémol, c'est qu'en tant que parent, quand tu laisses ton enfant de 10 ans, voilà, tu as 20 minutes pour aller à l'école.
Ses parents sont des dealers.
Quand tu es sur le chemin, ils tombent sur des gens comme ça. Enfin, à un moment, que c'est 10 ans, c'est entre 10 et 13, c'est vraiment un âge un peu où ils commencent à apprendre l'autonomie. Donc c'est ça qui est, en tant que parent,
très déstabilisant. Parce que là, tu veux que je te dise, ils sont dans un écosystème, en fait. C'est un écosystème de drogue, de deal.
Donc les parents défaillants.
Des parents défaillants ou complices.
Oui, d'accord.
Ou complices.
Défaillants, oui. Là, on parle plutôt des parents et pas des trafiquants.
Parce que si tu veux, derrière, on leur dit, ton gamin de 10 ans à qui il arrivera rien de toute façon, tu dis rien.
Oui, il est mineur, il n'y a pas de sanction.
Il va pousser des petits cris quand les flics vont arriver et t'inquiète pas, à la fin de la semaine, on te filera une enveloppe de 500 balles.
Donc ça, du coup, c'est là-dessus qu'il faut se poser.
C'est de la complicité aussi, ça peut être de la complicité.
Oui, c'est pour ça que je te dis, par rapport à tous les grands discours sur le trafic, c'est surtout les parents, qu'est-ce qu'ils font avec leurs enfants? Comment ça se fait qu'on a des enfants qui traînent comme ça? Enfin, c'est la même chose pour les émeutes et tout ça.
Mais ils sont défaillants. Alors moi,
parce que les parents sont peut-être des dealers. Éléonore,
peut-être, il y a tout ça, mais voilà. Mais
c'est un écosystème de dealers.
C'est un écosystème. Quand tu as les enfants, les parents et les grands-parents qui vivent du trafic de drogue, c'est ça qu'on voit dans ces quartiers-là.
Défaillant, ça regroupe tout. Mais ça regroupe tout. Un parent qui est dealer, il est défaillant en tant que parent. Je suis désolée. Il est responsable de son enfant.
Oui, mais on est au-delà de la défaillance. C'est des gens qui devraient être incarcérés et mis dans une maison.
Par exemple, là, c'est sûr qu'il y a des enfants dealers dont les parents eux-mêmes étaient dealers, mais par exemple, tu as des familles qui sont complètement dépassées. Tu as des gamins, la mère, elle est femme de ménage, elle arrive du Mali, elle vit avec un mari polygame 4 ans, 30 plus.
Allez, ça y est.
Mais c'est la vérité.
Mais c'est vrai.
Mais c'est la vérité.
Mais Éléonore, c'est la vérité.
Mais Éléonore, c'est la réalité.
Mais
c'est la vérité.
Mais non, mais ce que dit Jean-Loup, pardon, je vais le défendre.
C'est la vérité.
Je l'ai vécu comme avocat.
Il l'a vécu comme avocat.
Oui, la vérité. Oui, je suis désolé, le père qui est reparti au pays et la mère qui est toute seule en France. Avec 5-6 gosses et qui effectivement bosse au SMIC et qui a absolument pas le temps de gérer ses gamins, et t'as l'aîné qui est en tôle déjà pour du trafic de stup. Ça, malheureusement, c'est la réalité.
Et ce n'est pas de la faute de la mère.
Non, mais c'est sûr, ça cadre pas avec ta pensée politique. Mais tu dois accepter que c'est une réalité.
Pourquoi tu relances là-dessus? Je viens de vous dire
parce que tu refuses de voir la réalité.
Je comprends pas. Quand on pense pas exactement comme toi, on est catégorisé dans l'extrême opposé.
Non, mais ça ne sert à rien de punir la femme de ménage malienne complètement dépassé.
C'est une réalité.
Dans ces cas-là, ces enfants, ils sont pris en main.
Mais pris en main par qui?
Par l'État.
Par l'État.
Qui est-ce que tu veux? Tu fais quoi des enfants?
Que ça à foutre de prendre en main la totalité des enfants?
La jeunesse, c'est important. L'État français se fout de la jeunesse. Il faut qu'il s'en occupe de la jeunesse.
Allez, dans un instant.
Et alors, je préfère donner de l'argent aux enfants qu'aux vieux, je suis désolée.
La réalité, c'est qu'il faut réguler l'immigration. Il a raison, Jean-Loup. C'est une réalité aussi, désolé.
Dans un instant.
Désolé. C'est Lacan qui disait...
C'est une réalité aussi.
Lacan disait, le réel, c'est quand on se cogne. Donc là, t'es dans le réel.
Mais toi, tu te cognes jamais, donc c'est facile.
Je m'y cogne et cette réalité-là...
C'est son métier, d'ailleurs.
Je m'y suis cogné comme avocat. J'ai vu ça de très près, cette réalité.
Tu l'as vu de très près,
et ces jeunes, je les ai défendus comme n'importe quel autre client, avec toute la foi de l'avocat.
C'est normal, c'est ton
métier. Mais je vois la réalité politique derrière.
Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, Nicolas Sarkozy, à qui on a enlevé sa légion d'honneur, justifiée ou exagérée, c'est infamant, a dit ce matin son avocat, que l'on va écouter.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
Les grandes gueules sur RMC avec Toyota et sa gamme de véhicules utilitaires électriques ProAce. ProAce pour les pros.
À midi, vous voulez déjeuner chez RMC?
Alors installez-vous à la table d'Estelle Denis.
Au menu, une Juliette Briens tranchante.
Un Perico Légas épicé.
Une Élise Goldfarb acidulée.
Un Fred Hermel bien frais.
Une Yael Mélule corsée.
Et un Daniel Riolo ferme à l'extérieur, mais fondant à l'intérieur.
Estelle Midi, du lundi au vendredi, midi 15h sur RMC.
Bon appétit.
Chez Cellier des Dauphins, le rosé prestige, c'est avant tout le savoir-faire de vignerons producteurs engagés sur le territoire du sud de la vallée du Rhône.
Les raisins de notre rosé sont cueillis à l'aube pour préserver toute la fraîcheur des arômes. Avec ses notes florales et de petits fruits rouges, le rosé prestige AOC Côte du Rhône accompagnera parfaitement vos apéritifs et repas d'été.
Avec Cellier des Dauphins, nos vignerons vous invitent à des moments de saveur partagée. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Cette semaine, cap sur le Salon du Bourget, le plus grand rendez-vous aéronautique et spatial au monde, avec RMC. 2300 exposants, 150 aéronefs, des shows aériens spectaculaires et des expériences immersives à partager en famille. Explorez l'espace, découvrez l'aviation de demain, plongez dans les métiers qui font décoller l'industrie et partagez la passion des femmes de l'aéro et du spatial. Journée grand public, vendredi, samedi et dimanche, info et billetterie sur siae.fr. Le Salon du Bourget, cette semaine, avec RMC.
Pour vos pauses musicales, téléchargez l'appli RMC.
RMC vous offre aussi une radio digitale 100% musicale.
C'est RMC Gold.
RMC Gold. RMC, bien plus qu'une radio.
RMC, Apolline de Malherbe.
Dans le contexte économique actuel, les PME, c'est un énorme vecteur d'embauche en France et elles doivent être soutenues. Alors sur RMC, on lance la 16e édition des trophées PME RMC BFM, le premier concours des PME de France. Vous dirigez une petite ou moyenne entreprise, participez et gagnez 100 000 euros d'espace publicitaire sur RMC et sur les chaînes BFM locales.
Faites comme Too Good To Go, Blablacar ou encore C'est qui le patron et inscrivez votre PME dès maintenant sur trophées PME RMC BFM.fr.
Les trophées PME RMC BFM, ensemble, bougeons-nous.
Les trophées PME sur RMC avec Epner, expert du transport et de la logistique. Epner connecte les entreprises en Europe et dans le monde depuis 100 ans.
Bonjour, je suis Laurence de Carglass. On fait quoi en cas d'impact sur son pare-brise? On appelle Carglass au 3044. Et si on a deux impacts, c'est toujours Carglass au 3044. C'est simple. Une urgence sur votre pare-brise? Allô Carglass au 3044. Et pour prendre rendez-vous rapidement chez Carglass, c'est le 3044. Et l'appel est gratuit.
Carglass répare, Carglass remplace.
Bienvenue à vous tous, équipés d'une radio DAB+, qui écoutez désormais RMC à Saint-Malo et ses environs. RMC avance en DAB+, partout en France. RMC, bien plus qu'une radio.
Tiercé, quarté, quinté, plat, obstacle, trot, handicap, engagement, corde, œillère, déféré, autostart. Trop de termes compliqués pour vos paris hippiques? Je peux vous simplifier la vie, je suis le diplomate. Appelez-moi au 08 99 100 303 et retrouvez tous mes tuyaux. Écoutez mes bruits d'écurie et mes infos confidentielles pour des paris clés en main. Faites confiance au diplomate et misez sur les gagnants. 0899 100 303. 2,99€ par appel plus prix d'un appel. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Retour des grandes gueules dans moins de 60 secondes sur RMC.
Carrefour. Quand vous me dites les cerises, alors en clafoutis, en tartelette, en sorbet ou simplement nature, j'adore. Eh bien, je vous réponds que les cerises rouges Origine France sont à 4,99€ le kilo. Alors rendez-vous dès demain et jusqu'à jeudi chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur votre appli Carrefour. Retrouvons tous le goût avec Act for Food. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Catégorie 1, détail sur carrefour.fr.
Attention, même si l'UBB et le PSG sont champions d'Europe
et que c'est trop cool,
la saison n'est pas finie sur RMC.
Championnat de France de natation, championnat du monde de judo, Euro Espoir et Coupe du monde des clubs de foot, Euro féminin et finale du championnat de France de basket, phase finale du top 14 de rugby, mais aussi les grands prix de Formule 1 et de MotoGP.
Sur RMC, même l'été,
le sport ne s'arrête jamais. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
Avec les grandes gueules, tous les jours, vous discutez, vous débattez. Aujourd'hui, Jean-Loup Bonamy, le professeur de philosophie, est là, tout comme la prof d'aïkido, Éléonore Lemaire, et Charles Consigny, l'avocat. On va s'intéresser quelques minutes au cas de Nicolas Sarkozy, dont on a qu'on a déchu de la Légion d'honneur.
la déchéance de la Légion d'honneur d'un ancien président de la République, c'est une défaite. Voilà. Je vois pas comment on peut se réjouir de ça. C'est un mauvais signe démocratique. Je trouve qu'on doit honorer nos anciens présidents de la République, quoi qu'on en pense. Et ce, d'autant plus que, objectivement, Nicolas Sarkozy n'a pas démérité dans ses fonctions. Et ce qu'on lui reproche n'a strictement rien à voir avec ses fonctions. Aujourd'hui, on vit un monde où il y a de plus en plus de judiciarisation de la vie politique. On voit bien que le droit peut être utilisé désormais par certaines personnes pour essayer de fragiliser l'action des politiques. Et à partir de ce moment-là, il faut qu'il y ait une stricte séparation, j'estime, entre d'un côté ce que font les politiques et ce que font les juristes.
Vous venez d'entendre Maître Spinozzi, qui est l'avocat, l'un des avocats de Nicolas Sarkozy.
On peut comprendre l'émotion du côté de Nicolas Sarkozy parce qu'il est devenu le deuxième chef de l'État privé de cette distinction. Le premier, c'était le maréchal Pétain, à qui la Légion d'honneur avait été retirée après sa condamnation en août 1945 pour haute trahison à l'intelligence avec l'ennemi. Donc ce n'est pas
les mêmes
rien.
Raisons, quand même.
Ce n'est pas, oui, mais enfin, c'est les deux seuls cas. Et Nicolas Sarkozy a donc été exclu de la Légion d'honneur parce qu'il a été condamné d'une façon définitive à un an de prison ferme pour corruption dans l'affaire des écoutes, la fameuse affaire Bismuth. Même Jordan Bardella, qui est un adversaire politique de Nicolas Sarkozy, a estimé que c'était choquant d'avoir exclu Nicolas Sarkozy. J'ai beaucoup de désaccords avec Nicolas Sarkozy, qui a été un combattant du Rassemblement National, mais il a été président de la République, et donc il y a une volonté de l'humilier. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pensez qu'on est en train d'humilier Nicolas Sarkozy?
Alors, le truc, c'est que la règle, malheureusement, elle est assez imparable. Elle prévoit que, au-delà d'un an de prison, le retrait de la Légion d'honneur est automatique, en quelque sorte. Donc, j'entendais son excellent avocat, Patrice Spinozzi, je pense qu'il était complètement bloqué. Il pouvait, en réalité, rien faire. D'autant que Emmanuel Macron, je ne sais pas s'il l'a fait à dessein, mais a fait passer récemment une petite réforme discrète qui fait qu'il n'y a plus besoin de le consulter, de consulter le président de la République pour procéder à cette déchéance de la Légion d'honneur. Donc ça l'arrange, ça fait qu'il peut à la fois afficher une position et en même temps ne pas prendre de décision particulière. Moi je pense que, pourquoi moi ça me choque, au-delà du fait que, et ça compte quand même, au-delà du fait que je considère que Nicolas Sarkozy a été un très grand homme politique, un très grand président de la République. Et qu'il a, moi, le jeune homme de 17 ans que j'étais, il me faisait me lever le matin, Nicolas Sarkozy, à l'époque où il était aux manettes. Au-delà de ça, qui compte, parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui a porté beaucoup de choses dans le pays. Moi, ce qui me choque là-dedans, c'est qu'on lui retire sa Légion d'honneur pour la fameuse affaire, souvenez-vous, Bismuth. Mmh. L'affaire Bismuth, c'est une histoire de corne-cul, comme disait encore une fois le prédécesseur de Nicolas Sarkozy, dans laquelle Nicolas Sarkozy et son avocat ont été placés sur écoute et dans laquelle la fameuse ligne téléphonique dédiée, ouverte au nom d'un dénommé Bismuth pour être une ligne cachée, était exclusivement dédiée à la conversation entre Nicolas Sarkozy et son avocat.
Thierry Herzog.
Donc, quand les enquêteurs avaient à l'époque placé cette ligne sur écoute, ils savaient qu'ils n'allaient écouter que des échanges entre un justiciable et son avocat. Et donc ça, ils l'ont fait au mépris des règles du secret
de la
correspondance avocat-client. Ça a été validé par la Cour de cassation. On verra si c'est validé par la Cour européenne des droits de l'homme, puisque Nicolas Sarkozy a fait un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais j'estime, moi, que c'était un moment où, au fond, la justice, s'agissant de Nicolas Sarkozy, s'était un peu démasquée et elle avait montré qu'elle était prête à tout, y compris à marcher sur les principes.
Mais Spinozzi dit qu'en tant que président, il doit garder sa Légion d'honneur. La Légion d'honneur, c'est pour le président qu'il était en exercice.
Il essaye de trouver des arguments. Ouais. La règle est assez imparable.
Voilà,
moi, tout cas, je pense que Nicolas Sarkozy portera toujours la Légion d'honneur des Français qui l'ont aimé.
Je rappelle qu'il y a un autre procès dont on attend le jugement, ça sera fin septembre, c'est des soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Et le parquet a requis 7 ans de prison.
C'est compliqué déjà ça. En fait, tu l'as dit, hein, c'est un retrait de droit, donc moi ça ne me choque pas. Moi ce qui me choque, c'est cet attachement aux breloques qu'on a en France. Mais je veux dire, les breloques, la Légion d'honneur, on le donne à n'importe qui, à tout le monde, aux copains. Enfin, si on commence, donc, ok, l'avocat, je comprends, il est triste. Bon, c'est la règle, c'est comme ça, il est condamné, la Légion tombe. Est-ce qu'il faut en faire tout un foin? Enfin, je veux dire, c'est une breloque, quoi. Je veux dire, les grands services rendus à la nation. On n'arrête pas de se plaindre là dans le plateau. Ça fait 40 ans que les politiques de nous mettre là-dedans, etc. Mais alors par contre, ils se récompensent tous avec des breloques pour grands services rendus à la nation. Je trouve ça fumeux, moi. Voilà.
Jean-Loup.
Oui, tu sais qu'en Suisse, d'ailleurs, les décorations sont interdites.
Ah, voilà.
Il n'y a pas de décorations. Et il est même interdit d'en arborer ou d'en exhiber si tu en as reçu à l'étranger. Donc, on voit la différence de mentalité entre la France, ouais. Justement, vieux pays, oui,
monarchie. Les genres de la République.
Qui aiment les palais et les médailles et les décorations. D'ailleurs, Napoléon lui-même, qui était l'inventeur de la Légion d'honneur, disait lui-même que c'était un hochet. Comme pour les bébés, mais il disait également, c'est avec des hochets qu'on fait avancer les hommes et qu'on les tient. Voilà.
Ah, bah
donc on voit la différence entre la France et la tradition suisse républicaine. Mais puisque nous sommes en France, je trouve qu'en effet, comme l'a très bien dit l'avocat de Nicolas Sarkozy,
il y a une Francini.
Alors, je pensais. Alors, lui aussi est excellent.
À l'autre.
Mais je pensais à Monsieur Spinozzi, à Maître Spinozzi. C'est qu'en effet, il y a une judiciarisation de la vie politique qui est complètement dingue pour des affaires tout à fait secondaires, tout à fait mineures, dont, excusez-moi, mais on n'a un peu rien à foutre dans le fond. Enfin, je veux dire, l'affaire Bismuth et tout. C'est des affaires qui sont quand même totalement dérisoire, qui pose par ailleurs, en plus, comme l'a rappelé Charles, de vrais problèmes derrière, c'est-à-dire quand même, est-ce qu'on a le droit d'évoquer, d'écouter un avocat avec son client, c'est quand même très, très gênant, donc tout ça est quand même un peu sur le fil, et en plus pour, donc, quelque chose de tout à fait mineur et dérisoire, où les méthodes d'enquête employées, donc les écoutes, étaient quand même discutable,
la pour est rester passée, hein,
est discutable, vraiment retirer ça, et comme aussi l'a dit Olivier, que ce soit le seul chef d'État depuis Pétain, depuis 1945,
c'est le premier à être condamné, c'est
à
tout.
Qui
voilà.
On retire.
Non, Chirac a été, mais il a eu moins d'un an de prison.
Oui, c'est pour ça qu'il n'a pas eu
le premier président à avoir été condamné, c'est Jacques Chirac.
Et vraiment,
Mitterrand aujourd'hui,
oui, il serait en taule. Hein. Oui, mais il l'a pas voilà. été. Là,
c'est donc, qu'en France,
voilà.
En France, tu ne peux plus faire de politique parce que l'action politique est complètement entravée par la morale, la moraline, même le moralisme.
Mais là, c'est pas la moraline, non, là, c'est le droit.
Oui, j'allais dire un par la morale et deux par les juges. C'est-à-dire, tu ne peux plus faire un pas. La politique aussi, il y a des fois, surtout dans le monde actuel. Regarde, comme tu disais, la violence inouïe du monde actuel. Quand tu fais de la politique, faut te salir les mains. C'est pas un milieu d'enfant de cœur. Voilà. Donc, pour des faits qui sont quand même assez dérisoires, moi, ça me paraît hallucinant.
Si
de toute façon, on ne peut plus faire de politique en France.
Attendez, s'il est condamné là, dans le cadre des financements libyens, il dira aussi c'est dérisoire.
J'en ai rien à foutre.
D'accord, donc toi, t'en as rien à foutre. Mais alors, c'est drôle parce que
vous êtes toujours en train de dire.
Quand vous râlez sur Macron, vous êtes là en train de dire voilà les conflits, parce qu'il doit rendre des services à ses copains, machin truc. Vous râlez tout le temps sur lui, sur ces trucs-là. Il fait partie du Gotha. Je vous entends, hein. J'écoute les grandes gueules.
Mais je suis pas
vous êtes toujours en train de râler là-dessus. D'accord. Mais alors, tout de suite, tout à coup. On n'en a rien à foutre des histoires de Sarkozy, mais en fait, il a traîné des casseroles. Quand il y avait eu le débat entre deux tours et Eva Joly avait dit, de toute façon, s'il n'est pas réélu, il y a les juges qui l'attendent. Tout le monde l'avait vilipendé, genre, vous pouvez pas dire ça d'un président, c'est irrespectueux, tout ça. Quand il a arrêté d'être président, les juges lui sont tombés dessus. Ils attendaient tous en embuscade.
Parce qu'il y a un acharnement.
D'accord. Ok, donc alors, du coup, quand la justice passe, c'est un acharnement.
Verras,
on dirait un peu l'argumentaire contre Marine Le Pen, quoi. Il y a un acharnement.
Éléonore, tu verras.
Arrêtez.
Tu verras
la victime,
dès l'instant
quoi.
Où Emmanuel Macron ne sera plus président, tu verras qu'il recevra sa convocation pour venir s'expliquer sur telle ou telle affaire. Tu observeras quand même que le nombre de parlementaires qui sont visés par des enquêtes pénales, si tu le rapportes, si tu veux... Mais non,
Mais
tu peux pas réfléchir comme ça.
Essaye de réfléchir.
Non, essaye de pas réagir à chaud comme ça. Enfin,
contrôle tes nerfs, quoi. C'est ça que tu veux dire.
Non, c'est pas ça. Je te dis. Non, laisse finir une phrase avant de réagir. C'est tout bête.
Vas-y, finis ta phrase.
Voilà. C'est pas ni désagréable, ni méprisant, ni quoi que ce soit. Si tu rapportes à la population française, c'est quasiment comme si tu avais un Français sur deux visé par une enquête du parquet national financier. Mais bien sûr, puisque le nombre d'hommes politiques et de femmes politiques qui sont suspectés, même Aurore Berger,
qui, excuse-moi, n'est pas Jean Tiberi ni Silvio Berlusconi. Et ben même elle a été perquisitionnée et entendue dans une enquête judiciaire.
Parce qu'il m'avait étonné, Édouard Philippe.
On a perquisitionné Édouard Philippe en plein
Covid. Le Covid.
On a regardé dans les paquets de cornflakes de Sibeth Ndiaye en fait, pour voir si elle planquait pas une clé USB ou un dans laquelle il y aurait eu des infos confidentielles sur le Covid. Mais je sais pas si tu te rends compte, les juges deviennent dingues parce que c'est vieux comme le pouvoir, c'est une question d'équilibre des
30
pouvoirs.
Secondes
c'est une jolie...
Et ils veulent prendre le pouvoir sur les politiques.
C'est un joli truc, en fait, c'est différent d'être condamné ou d'être sous enquête. Enfin, je veux dire, il y a des enquêtes, mais ils sont pas tous condamnés.
Ah, donc ça va.
Bah oui, ça va.
Ah bah d'accord.
Enfin, je veux dire, ils représentent la nation.
On va te perquisitionner.
Mais moi, je ne représente pas la nation. Moi, ça ne me dérange pas de me faire perquisitionner. Enfin, j'ai rien.
Jamais
pas,
très agréable.
Bah, voilà. Tu vois le raisonnement. Non, bah, c'est ce qu'on disait. Dans
c'est
toutes les dictatures, on a pu dire.
Oui, mais beaucoup de gens, les Français.
Je suis désolée, moi, j'en ai marre d'avoir les magouilleurs à la tête du pays.
Parce que les Français ne comprennent rien.
Parce que
les Français sont persuadés que leur classe politique est corrompue, que les élites abusent.
C'est pas le cas.
Je pense que les Français ne pleurent pas que les
Je suis d'accord, ils sont légion d'honneur. Alors, Nicolas Sarkozy, à qui on enlève sa légion d'honneur, pour vous, est-ce que c'est justifié ou exagéré? On va regarder la consultation puisqu'on vous a posé la question. Justifié
oui, c'est sûr.
À 57%.
Merci les auditeurs.
Dans un instant, Sophie Primas, porte-parole du gouvernement sur le
plateau. Il y a quand même 43% de résistance.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules. Sur RMC, tous les matins dès 6h30, commencez la journée dans la bonne humeur avec Apolline Matin.
De l'écho, de l'actu, des débats, du rire dès le réveil, un journal toutes les demi-heures, les meilleurs invités et vous au 32-16.
RMC, Apolline Matin, du lundi au vendredi, 6h39.
Les factures, la compta, la paperasse. Eh ben moi, ça m'angoisse pas du tout pour ma boîte. Avec EBP, j'ai toutes les solutions pro pour gérer facilement ma compta, automatiser mes factures et assurer mes obligations fiscales sans stress. Tranquille, comme dirait mon fils. EBP, gérez votre business sans prise de tête. Rendez-vous sur ebp.com.
Salut, c'est Anthony Morel, le monsieur tech d'RMC. Est-ce que vous savez que vous pouvez maintenant écouter RMC en DAB+. Le DAB+, c'est une petite révolution. Hein. C'est l'équivalent à la radio de ce qu'a été la TNT pour la télé. Un son de meilleure qualité et sans coupure grâce au numérique. Et surtout, une écoute en continu. Plus besoin de changer de fréquence sans arrêt quand vous êtes en voiture. Vous choisissez votre radio préférée par ordre alphabétique. RMC, par exemple. Et c'est terminé. Que ce soit sur autoroute ou à la maison, dans n'importe quelle ville de France, le DAB+, c'est l'assurance de pouvoir écouter RMC partout, tout le temps.
Alors comme je vous le disais, madame, avec la rénovation énergétique à 1 euro, l'État prend tout en charge.
Je sais pas, ça m'embête de décider tout de suite.
Mais alors je comprends, le problème c'est que si vous signez pas maintenant, vous pourrez plus en bénéficier et ça va vous...
Non, n'insistez pas, je préfère un autre avis d'abord.
La réno énergétique à 1 euro, ça n'existe pas. Les arnaques, si. Avant de dire oui, demandez un autre avis. Contactez votre conseiller France Rénov sur france-rénov.gouv.fr, le service public de la rénovation de l'habitat.
Cette semaine, cap sur le Salon du Bourget, le plus grand rendez-vous aéronautique et spatial au monde, avec RMC. 2300 exposants, 150 aéronefs, des shows aériens spectaculaires et des expériences immersives à partager en famille. Explorez l'espace, découvrez l'aviation de demain, plongez dans les métiers qui font décoller l'industrie et partagez la passion des femmes de l'aéro et du spatial. Journée grand public, vendredi, samedi et dimanche, infos et billetterie sur siae.fr. Le Salon du Bourget, cette semaine, avec RMC.
RMC au 32-16,
45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16,
75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
Abîmés, déchirés, vos baskets peuvent encore marcher. Il suffit de les faire réparer par un réparateur labellisé. Profitez du bonus réparation jusqu'à 25 euros déduits du montant à payer. C'est bon pour votre porte-monnaie.
Retrouvez les réparateurs labellisés proches du lieu où vous habitez. Infos et conditions nécessaires sur bonusreparation.fr. Refashion, changeons notre monde durablement.
Marre des pronostics épiques à rallonge ? Vous ne savez pas quelle course et quel type de pari choisir ? Je suis le diplomate. Je fais le tri parmi mes infos confidentielles et vous propose des jeux clés en main. Appelez-moi au 08 99 100 303 et écoutez mes pronostics pour le quintet sélectionné grâce à mes bruits d'écurie. Sans oublier mes tuyaux exclusifs sur d'autres courses de la journée. Faites confiance aux diplomates et misez sur les gagnants. 08 99 100 303. 2,99€ par appel plus prix d'un appel. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
La tournée des meilleurs artisans de France RMC arrive près de chez vous. Jusqu'au 11 juillet, retrouvez-nous sur une tournée de 14 dates partout en France. Petit déj offert, démo d'outils, présentation de véhicules utilitaires, jeux concours et l'enregistrement d'une émission 100% artisan sur un plateau RMC délocalisé. Info sur rmcmeilleursartisansdefrance.fr. On compte sur vous.
La tournée des meilleurs artisans RMC, c'est 14 dates partout en France. Kiloutou, louez, partagez.
Si un jour vous ne captez pas RMC,
pas d'inquiétude.
RMC est aussi en direct sur rmc.fr
et sur l'appli RMC.
À tous ceux qui se retrouvent entre potes quand c'est soir de match, mais faites pas trop de bruit, il y a la petite qui dort à côté. Et à ceux qui vont devoir apprendre à crier sur l'arbitre, mais en chuchotant. Mais la faute là ! Carton, monsieur l'arbitre, carton, monsieur l'arbitre ! Oh.
Dès mardi, Intermarché vous offre 80% en avantage carte sur tous les produits de la marque Pampers. Et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 22 juin, des 30 euros d'achat et dans la limite de 40 euros, modalité sur intermarché.com.
Pour vos pauses musicales, téléchargez l'appli RMC.
RMC vous offre aussi une radio digitale 100% musicale.
RMC Gold.
RMC Gold. RMC, bien plus qu'une radio.